Ensemble, ici, Radio Livre, la radio des initiatives.
Bonjour à tous, ici Pauline Boulet au micro. Nous sommes le dimanche 22 novembre sous le doux soleil de Vinsobres et je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de Radio Live. Je suis absolument ravie d'animer cette nouvelle édition de Mare Nostrum puisqu'aujourd'hui on va parler voyage, on va parler musique en compagnie de Gitanjali Pikowski et Lucas Bergugnou. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors vous êtes les fondateurs du projet Mare Nostrum et donc par extension de l'association Mare Nostrum et vous êtes ici avec nous pour nous raconter l'histoire de votre voyage de 7 mois autour de la Méditerranée. Vous êtes partis tous les deux en novembre 2014, il y a tout juste un an, et vous êtes partis à la découverte de nouvelles cultures, mais surtout de musique traditionnelle, populaire ou savante, donc tout autour de la Méditerranée. Pendant votre périple, vous avez traversé 9 pays, de l'Espagne à la Turquie. Et lors de la dernière émission, Mare Nostrum, vous nous avez raconté en musique, bien sûr, la première étape de votre voyage, c'était le Maroc. Mais aujourd'hui, nous faisons une halte ensemble en Croatie, donc votre deuxième escale. Nous allons visiter ensemble les villes de Zagreb et Split. Vos histoires vont nous plonger au cœur de l'histoire des Balkans. Le voyage sera évidemment arrosé de musique, puisque c'est le fil rouge du projet Mare Nostrum, mais aussi de vin, celui de la région de Dalmatie, où vous avez posé vos valises le temps de quelques rencontres. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je m'adresse à nos auditeurs, spectateurs, vous tous qui êtes avec nous dans la salle des associations de Vinsobres, eh bien vous pouvez intervenir à tout moment de l'émission pour poser des questions, pour réagir ou apporter un témoignage. N'hésitez pas, Gitanjali et Lucas n'attendent que ça. Allez, je ne vais pas attendre plus longtemps, c'est parti, on commence le voyage et si je ne me trompe pas, nous arrivons à Zagreb.
Oui, c'est ça. Alors, comme tu l'as bien dit, Pauline, on est parti du Maroc environ le 12 janvier 2015. Donc, on avait passé un mois et demi au Maroc et on devait malheureusement partir de ce pays qui nous a beaucoup plu pour rejoindre la côte nord de la Méditerranée. Et du coup, pour rejoindre la Croatie. Alors, pour arriver en Croatie, on a pris un bateau qui nous a pris 3 jours de voyage. Donc, on a pris 3 jours pour traverser la Méditerranée. On a ensuite traversé l'Italie, où on n'est pas resté, la Slovénie, pour bien se rendre à Zagreb, où on avait notre premier partenariat avec une école croate, donc l'école de Zagreb, l'école Otok, qui était notamment jumelée avec la classe des CM1, CM2 de l'école de Vinsobres.
Qui est juste à côté, jusqu'à à côté de nous. Donc.
C'est ça, à 3 mètres.
Et alors, avec cette école, qu'est-ce que vous avez fait comme projet? Le partenariat consistait en quoi? En arrivant, vous êtes tout de suite allé les voir pour parler musique? De quoi il était question?
Il était question déjà de nous présenter nous et de présenter notre initiative. Et ensuite de présenter plus en détail notre voyage. Alors, on avait construit une malle avec des objets qu'on avait amassés pendant notre... pour moi, il était assez court notre voyage, mais quand même quelques objets qu'on avait amassés, donc surtout au Maroc et un petit peu en Espagne. Et on leur expliquait l'histoire de ces objets-là et puis à quoi ça se rattachait dans la culture des...
Est-ce que c'était des objets, des instruments de musique ou pas forcément? C'était des objets divers?
Des objets divers, mais aussi des instruments de musique.
D'accord.
On avait un gambri, on l'avait fait écouter durant la dernière émission, des carcabas, donc deux instruments traditionnels marocains. Et puis on avait un tagine qu'on nous avait offert, des choses de la vie de tous les jours, mais du coup, qui était très étonnante à voir pour ses enfants, parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Donc c'est rigolo, ils se le mettaient sur la tête, ils pensaient que c'était un chapeau, ils pensaient que c'était une boîte. Et donc c'était vraiment très sympa. Du coup, en arrivant à Zagreb, on n'a pas tout de suite été dans l'école. En fait, on a été accueillis par... une professeure de français, donc une française, une coopérante française qui travaillait dans les écoles partenaires, qui nous a accueillis 2 jours. Et puis très vite, comme partout pendant le voyage, on était accueillis chez les parents des élèves, donc directement dans les familles croates, qui étaient généralement des grandes familles avec les enfants qui étaient donc partenaires de l'initiative. Donc on est arrivé d'abord dans le quartier de Slobochtina, oui c'est bien ça, qui est un quartier de Navi Zagreb, donc le nouveau Zagreb. Un quartier au départ qui nous a semblé assez populaire, un quartier comme nous, on a dans les extérieurs de nos villes, donc parfois aussi avec cette connotation qui est parfois négatif, hein, voilà, en France. Et en fait, c'est assez rigolo de découvrir ce quartier-là, qui est un quartier qui a été construit pendant la période de l'ex-Yougoslavie, donc de la Yougoslavie. Et ces logements-là, ils ont été construits par les entreprises qui appartenaient donc à l'époque aux salariés, puisque pendant la Yougoslavie, les entreprises étaient détenues par les salariés. Donc, ils faisaient construire ces logements-là pour ensuite loger les salariés dedans. Donc, finalement, dans ces quartiers, on retrouve des gens de divers horizons. Donc, pas du tout... c'est pas le quartier paupérisé comme on l'a en France, mais un quartier où il y a vraiment, vraiment différents types de classes sociales, on va dire. Donc, c'est assez intéressant.
Donc, vous avez logé dans ce quartier, c'est bien ça ?
Oui.
Chez une famille que vous aviez rencontrée avant, comment ça s'est passé ?
Non, en fait, on avait demandé dans nos partenariats avec les écoles à l'étranger de pouvoir être accueillis donc, par des parents d'élèves. Et donc, on a été accueillis par deux familles qui avaient des élèves dans cette école-là, donc, qu'on a vu aussi en classe après.
C'était enrichissant, j'imagine, de loger chez eux, parce que vous étiez au cœur de la culture.
Oui, on a pu effectivement découvrir vraiment la culture et l'histoire croate, culture qu'on connaissait, mais alors absolument pas, et histoire qui est complexe. Donc on s'est plongé un peu là-dedans, on était confrontés de plein fouet avec cette histoire tumultueuse. Et en ça, c'est vrai que ça a été génial, enrichissant pour être accueilli comme ça.
Et ensuite, vous êtes allé dans cette école, ce que vous venez de nous raconter. Et ensuite, vous avez continué votre voyage. Vous êtes resté encore un petit peu à Zagreb.
On est resté bien une bonne semaine.
Ouais, une petite dizaine de jours. En fait, on a été dans deux familles différentes. Donc, c'était très intéressant. En fait, tout le long de notre voyage, on se rend compte maintenant avec du recul que petit à petit, on a découvert la Croatie et l'histoire de la Croatie avec les rencontres qu'on a faites. Et à chaque fois, on avait une première, et ça nous arrivait partout, on avait une première vision d'un pays avec ce que les gens nous racontaient. Et puis finalement, il y a une personne qui va nous dire complètement l'opposé. Et tu construis comme ça l'image que tu te fais du pays et qui devient de plus en plus intéressante. Et de par ces rencontres qui ont été complètement diverses. Donc là, donc dans nos vies à Zagreb, on a été dans deux familles différentes. Mmh. Donc d'abord la famille d'Écosse. Donc là, c'était très rigolo parce que l'Écosse, il parlait très 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 peu anglais. Il y avait juste le père qui parlait, mais vraiment un anglais très basique. Donc on avait peu de, on parlait.
C'est difficile de communiquer.
Choses, voilà. Ouais. Mais on parlait d'autres choses et on parlait autrement et ça c'était vraiment très agréable.
Au final, la personne avec laquelle on s'est plus lié dans cette famille-là, c'était le grand-père qui lui parlait juste un petit peu de russe et donc albanais.
Du croate.
Je vais trop loin. Moi. Et du coup, c'est avec lui qu'on s'est le plus lié sans pouvoir vraiment communiquer. Donc,
c'était plus facile de parler russe-croate que de parler anglais. Expliquez-moi.
C'est juste qu'on.
Une question d'affinité au final.
Ouais. D'accord.
Mais on peut aussi se passer de la langue.
Et donc ça, c'était dans la première famille. Et la deuxième famille, quelle était la différence ? Parce que tu disais, Gitanjali, que vous aviez eu deux versions différentes de l'histoire, finalement, croate. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté, la deuxième famille, par rapport à ce que vous aviez vu ?
Et du coup, on a plus eu 4 ou 5, parce que du coup, ça va suivre ensuite Zagreb. On va rencontrer encore d'autres familles. Dans la première famille, on a très peu parlé, mais c'était des gens qui avaient quand même un niveau de vie assez élevé pour l'ensemble des Croates. Le père avait un garage et la mère était dentiste, donc ils gagnaient plutôt bien leur vie. Et ils avaient eu l'occasion de voyager, donc notamment d'aller en France. Donc nous, on était très intéressés de savoir ce qu'ils avaient pensé de la France. C'est toujours rigolo de savoir, vous avez trouvé ça comment ? Et alors, une des choses qui nous a aidé aussi à former et à comprendre la Croatie, c'est qu'ils nous ont dit à un moment, c'était super, par contre, quand on était à Paris, avant 11h du matin, il n'y a que des étrangers dans la rue. Alors tout de suite, on se fait, alors qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Et en fait, là, on touche à une problématique qui est très intéressante dans tous les Balkans. C'est la question de la citoyenneté, de la nationalité, de l'identité, de la formation de l'identité. En France, on ne différencie pas citoyenneté et nationalité. C'est-à-dire qu'on est citoyen français et on a la nationalité française. Par exemple, pour moi, c'est le cas. Je suis jugée différemment en Croatie. Je suis d'origine indienne. Donc, j'aurai la citoyenneté française, puisque je suis née sur le territoire français. Donc, je suis de citoyenneté française. Par contre, je suis de nationalité indienne. Je ne parle pas de toutes mes origines, mais voilà. Les origines culturelles vont...
Ils font vraiment la différence. Ce qui fait que dans la population croate, il y a une stratification qui est plus importante que nous en France, par exemple.
Maintenant, en fait, c'est plus vrai, puisque... la société croate n'est plus du tout une société multiculturelle depuis la fin de la Yougoslavie. Et cette histoire de nationalité, en fait, ça se rattache vraiment à l'histoire propre de la Yougoslavie, qui est donc une république fédérale de
six États démocratiques.
Et donc la citoyenneté, c'était la citoyenneté yougoslave, et la nationalité, c'était l'appartenance ethnique à un groupe. Donc en fait, il y avait trois nationalités différentes, les Croates, les Serbes et les musulmans. Le terme musulman ne définit pas l'appartenance juste à la religion musulmane, mais en fait définit les Slaves musulmans, ce qui vont après s'appeler les Bosniaques.
D'accord.
Ouais, c'est un peu compliqué, je suis pas sûr d'être très clair.
C'est un peu complexe, mais... Oui, en fait, dans l'ex-République yougoslave, il y avait ces six États. Et en fait, donc, les musulmans, ça ne veut pas dire juste être de confession musulmane, mais ça regroupe...
Appartenir à une ethnie, en fait.
C'est ça, à l'ethnie, ouais. Et du coup, en fait, les Croates, les gens qu'on appelle Croates, ils sont de confession quand même catholique, alors que les Serbes sont de confession orthodoxe. Et c'est vraiment ce qui va différencier les trois groupes.
Les trois ethnies,
ouais. Et donc, c'est ce qui va, amener aussi, par exemple, donc le père de la famille Kos, à nous présenter, moi et Lucas, Lucas comme français et moi comme indienne. Et donc, la première fois que j'entends ça, bah, je me braque un peu. Je fais, il est un peu bizarre. Et finalement, en fait, on comprend, justement, de par leur histoire, qu'il y a vraiment une différence entre ces deux termes. Et effectivement, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui, parce qu'avec la guerre des Balkans, donc à la chute de la Yougoslavie, la Croatie prend son indépendance, ce qui va amener une guerre, puisque la Yougoslavie ne veut pas que la Croatie sorte de la confédération.
Oui, à ce moment-là, la Yougoslavie, c'est plutôt la Serbie qu'autre chose.
Oui, c'est Serbie, Monténégro, ils sont... Et du coup, à la fin de la guerre, donc en 95, il y a 96% de citoyens croates de nationalité croate. Donc il y a presque plus que des Croates en Croatie, et ça peut parfois les choquer de voir quelqu'un qui est de couleur, parce qu'ils ont vraiment vraiment pas l'habitude d'en voir.
Et donc en voyageant en France, c'est pour ça que ça les a autant surpris. Et vous avez pu donc leur expliquer, échanger, et c'est à ce moment-là que vous avez eux ils vous ont expliqué toute la complexité de leur histoire, ou vous l'avez su qu'après
C'est au fur et à mesure des rencontres et des discussions qu'on a pu avoir, peut-être avec des personnes avec qui on pouvait plus communiquer par le biais de l'anglais ou du français, qu'on a pu se rendre compte plus précisément de ces choses-là.
Est-ce que vous avez aussi rencontré des gens par hasard, j'imagine, pendant ce voyage, après avoir logé chez ces deux familles? Comment ça s'est passé?
En fait, on n'a pas rencontré tant de gens que ça par hasard, parce que notre travail avec les écoles nous a pris énormément de temps en Croatie. À Zagreb, on a rencontré une étudiante en français par le biais de la professeure de français. Enfin, son poste s'appelle lecteur de français. En fait, c'est les... Comment tu dirais ça?
C'est les Français qui sont embauchés par l'ambassade pour travailler dans les écoles où on apprend le français. Donc, ils ont un professeur en général croate qui parle quand même très bien français, mais ils ont toujours une ou deux heures avec une lectrice ou un lecteur qui est là d'origine française qui peut leur permettre d'avoir une vision différente du français.
Donc par le biais de cette partenaire, on a rencontré cette étudiante croate qui étudiait le français donc à l'université, et on l'a rencontrée par la suite à Zadar, donc sur la côte d'Almate, avec une autre étudiante avec qui on a pu avoir des discussions assez intéressantes, parce que c'est vrai que c'était deux personnes qui étaient parmi les premières à ne pas avoir connu la guerre de Yougoslavie.
Des personnes de la même génération que vous, donc qui avaient un regard...
Un tout petit peu plus jeune, mais...
D'accord, oui, qui portent un regard complètement différent sur cette guerre, puisqu'elles ne l'ont pas vécue.
Ouais. On a parlé un peu des causes, mais juste après, on a été dans une famille qui était complètement, complètement différente, notamment parce qu'ils parlaient aussi très bien anglais et qu'on a pu beaucoup communiquer. C'est la famille des Ružić. Voilà.
Oui, donc la famille des Ružić. donc eux, ils étaient tous les deux ingénieurs, donc c'est plutôt des professions plus intellectuelles. Et ils pourraient être ce qu'on appelle des yougo-nostalgiques, en fait... Donc voilà, c'est une tendance qui est assez, assez puissante.
Donc nostalgique de l'ex-Yougoslavie, de cette période avant la guerre des Balkans.
Oui, donc de cette période-là où finalement il y avait une vraie union entre les différentes parties de la Yougoslavie et où effectivement il y avait un vrai brassage ethnique.
Pourquoi ils sont nostalgiques de ça? Est-ce qu'ils vous l'ont expliqué?
Oui, alors il y a des considérations sociales surtout et économiques. C'est vrai que depuis que la Yougoslavie a pris fin, la Croatie est entrée dans une économie mondialisée. Et avec ça, il y a tout un lot de misère qui est arrivé. Et notamment, tous les services publics ont commencé à baisser. Et tout ce qui est social, ben, c'est maintenant presque inexistant.
D'accord.
En fait, c'était un peu de l'amertume parce que il nous a dit qu'effectivement, ils étaient nostalgiques de cette période-là, mais il nous a dit qu'on ne pouvait rien dire parce que bah, voilà, le régime contrôlait tout. Mais au moins, on était tous égaux, on avait tous la même chose. Aujourd'hui, je peux dire ce que je veux, mais qui m'entend ? Quel poids à ma parole ? Donc c'était une amertume des conséquences de comment ça se passe aujourd'hui en Croatie, de la corruption, du fait qu'ils ont de moins en moins de droits, que ce soit aussi difficile pour leurs enfants. Ils avaient quand même des sécurités au niveau de l'emploi, etc.
Vous vous en seriez rendu compte par vous-même pendant votre voyage ? Vous pensez, sans avoir rencontré ces gens, ou c'est seulement le fait qu'ils vous en parlent et qu'ils vous l'expliquent qui vous a permis de réaliser cette part de la réalité croate ?
Bah, la Croatie, maintenant, c'est une destination touristique assez importante et je pense qu'il y a une vitrine très forte qu'on offre aussi aux touristes qui viennent des pays plus riches. Et donc, effectivement, je pense qu'on ne se serait pas du tout rendu compte de ces problématiques-là si on n'avait pas pu rencontrer véritablement les gens et parler avec eux de leur vie.
Et donc, au début de l'émission, je disais que vous étiez parti à la rencontre quand même des musiques croates. Qu'est-ce que vous avez découvert là-bas en termes de musique ?
On peut en envoyer une petite pour commencer.
Allez, c'est parti. Écoutez la musique, j'ai entendu plusieurs personnes dire que ça ressemblait à de la musique celte. Est-ce qu'il y a des liens ou est-ce que vous savez s'il y a une...
Alors, on ne s'était pas trompé de route en tout cas, mais c'est vrai que la cornemuse, puisque c'était une cornemuse donc, croate, j'allais encore dire albanaise, la cornemuse c'est un instrument qu'on retrouve un peu partout et un peu partout autour de la Méditerranée aussi. C'est la seule fois où nous on en a rencontré, mais je sais que ça existe de manière assez forte, surtout le pourtour méditerranéen. Donc c'était une musique qu'on a beaucoup appréciée, mais c'était pas du tout le genre de musique qu'on recherchait en fait, puisque c'était pas une musique qui était vivante, c'était un style qui était éteint, et le monsieur, l'artiste qu'on a rencontré, donc lui s'amusait, enfin c'était plus que c'était un professionnel, il collectait des musiques qui étaient mortes, il s'amusait à refabriquer les instruments en fait d'époque lui-même. Donc il avait toute une gamme d'instruments principalement avant, mais aussi des instruments à cordes. Et donc il faisait des spectacles de ces musiques, mais qui n'étaient plus une musique qui avait une véritable évolution sur le territoire.
Et qu'est-ce que tu appelles une musique morte par rapport à, est-ce que c'est lui qui jouait ? Parce qu'à partir du moment où il joue, j'aurais tendance à penser naïvement que c'est une musique vivante de fait, mais quelle est la différence ?
Alors pour moi, la différence, c'est qu'en fait, la musique, elle est figée dans sa forme. Elle n'a plus de véritable raison d'exister puisque sa forme est figée. Et on va représenter ce style-là, mais il ne va plus évoluer.
D'accord, donc c'est un style déjà passé qu'on reprend, mais qui ne va plus changer.
C'est une forme de revivalisme.
D'accord. Et ce monsieur, du coup, jouait tout seul ou comment ça se passe ? C'était un montage de plusieurs instruments qu'il interprétait lui-même ou
ce qu'on a entendu précisément ?
Il y avait seulement de la cornemuse.
Là, il y avait seulement de la cornemuse. Alors, c'est aussi intéressant parce que là, on voit que, effectivement, le fait que tu poses cette question, tu avais l'impression qu'il y avait plusieurs instruments ?
Oui.
Et ça montre qu'en fait, l'esprit polyphonique, alors on va en parler un peu plus tard, est très prégnant dans la musique croate. Donc le fait de mélanger plusieurs voix mélodiques différentes. Et donc avec une seule cornemuse qui a plusieurs tuyaux, en fait, il va pouvoir faire cette mélodie très savante où il fait en fait se superposer différentes mélodies.
Et où vous l'avez rencontré, ce monsieur, dont on a oublié le nom, pardon?
Donc on l'a rencontré à Zagreb, grâce à notre contact de l'ambassade de France, du service culturel. Et on l'a rencontré dans l'arrière-salle du Théâtre National de Zagreb.
Vous étiez dans les petits papiers, les petits couloirs derrière.
On avait nos entrées.
Il nous avait amené une malle remplie d'instruments comme ça qu'il avait lui-même fabriqué. C'est vrai que c'était un moment assez chouette quand même.
Et donc, est-ce qu'après ça, vous avez quitté Zagreb ou vous êtes resté encore un petit peu? Non, vous avez quitté Zagreb.
Après tout ça, on a quitté Zagreb. En fait, cet enregistrement-là, il se passe entre la famille Kos et la famille Rušić. Et du coup, à la fin de la semaine avec les Rušić, on part de Zagreb. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Zagreb, donc la Croatie, elle a quand même des histoires. Bah, c'est un endroit où il y a eu énormément de rencontres de grands empires, de populations. Et du coup,
les Balkans, en général, c'est une zone de transition, une zone de passage et une zone de rencontre de culture qui est complètement folle. C'est quand on essaie de regarder un peu l'histoire de cette ère géographique, ça devient fou.
Puis on a eu un petit aperçu quand même de la complexité de cette histoire.
Et du coup, je voulais juste te dire que voilà, Zagreb, c'est vraiment en fait ça a été sous occupation austro-hongroise pendant très longtemps. Du coup, voilà, on a vraiment cette culture qui est très présente. Et donc là, on a pris la route. Donc, on était au mois de février, il faisait très froid. On venait d'avoir une grosse tempête de neige. Il y avait 10 cm de neige. On ne savait pas si on pourrait prendre l'autoroute ou pas parce qu'elle a été fermée la veille. On n'avait pas de chaîne sur la voiture, sur les pneus de la voiture. Et donc, on y va quand même, on part. Et on arrive, donc on prend la route pour se rendre sur la côte d'Almaty. On y arrive. Et là, on traverse donc le Velebit, qui est la chaîne de montagnes qui longe la côte d'Almaty et qui sépare les terres de la côte. Et vraiment, sans mentir, il neigeait juste avant. On traverse le Velebit, donc c'est un tunnel qui est très long quand même. C'est des tunnels sur une vingtaine de kilomètres. Donc on était à moins 7 degrés. On arrive de l'autre côté, il faisait 13. Il y avait 20 degrés de différence.
Wow. Il n'y avait plus de neige et puis végétation méditerranéenne.
Ouais, c'était complètement fou. Et du coup, ça représente vraiment l'esprit qu'il y a entre l'intérieur des terres et du coup, là, plutôt le nord de l'intérieur des terres, puisque après, toute la côte d'Almaty, c'est tout ce qui reste de la Croatie. Quoi. Donc après, c'est une bande qui longe la mer. Et donc là, on arrive, pas encore à Split, mais à Zadar, où on va rejoindre justement, Lucas vous parlait de deux jeunes étudiantes qu'on avait rencontrées en français. Donc, on les avait rencontrées à Zagreb. Et en fait, elle nous a dit « Ah, mais c'est super, moi, j'habite à Zadar, je rentre pour les vacances. Allez, on va se faire une petite soirée. » Et donc là, c'était très intéressant, justement, de parler avec deux jeunes filles. Parce qu'effectivement, elles n'avaient pas l'histoire de la Yougoslavie, ça leur passait au-dessus de la tête. Ou en tout cas, elles avaient
moins ce poids de l'histoire yougoslave sur les épaules, en tout cas.
Et elles avaient envie vraiment de se dégager de ça. Autant il y en avait une qui disait « Bon, on n'en parle pas assez, j'aimerais qu'on en parle pour qu'on puisse mieux digérer finalement cet héritage et comprendre notre histoire. » Et puis il y en avait une autre qui nous disait « J'en ai marre d'en parler. La Croatie, ok, ça fait 20 ans qu'elle est sortie de cette guerre. »
On passe à autre chose.
Et j'ai envie, il y a plein de potentiel, il y a plein de jeunes et j'ai envie qu'on arrive à s'en sortir. Donc c'était aussi super intéressant d'enlever cet héritage qui est super lourd et d'essayer de construire une nouvelle Croatie. Et donc, ensuite, on reprend la voiture, puisque c'était juste une étape pour aller à Split, parce qu'il y a quand même pas mal de kilomètres qui séparent Zagreb de Split, hein, 5 ou 600. Et du coup, on arrive à Split et on vous met tout de suite une petite musique pour vous mettre dans l'ambiance.
Sve su koke ponudile, jesu pica izubile, razbile su skapuneru, od velike žalosti, ma razbile su, su skapuneru, od velike žalosti, ma razbile su, skapuneru, od velike žalosti, sve su koke poludile,
sont ces voix enfantines qu'on entend?
Alors effectivement, c'était des enfants, donc c'était une clapizza, une petite clapa. Alors je vais dire plus tard ce qu'est une clapa. Donc du collège Luchat, avec lequel on travaillait à Split. Et donc c'était des élèves d'environ 10-12 ans qui avaient ce niveau en chant, qui est plutôt
c'est
pas mal.
Impressionnant, oui.
Et d'une manière générale, on nous a souvent dit que et on l'a vu aussi, qu'il y avait une éducation artistique qui était assez poussée en Croatie, surtout en musique. Et je pense que c'est aussi un héritage de la période yougoslave.
Ok, et donc ils nous chantaient. Répète-nous le nom de ce chant, de ce type de chant.
Alors c'est de la clapa. Et une clapa d'enfant, ils appelaient ça une clapizza.
D'accord. Ok. Et donc, est-ce qu'ils ont chanté cette chanson pour vous, ou vous êtes arrivé à un moment où c'était simplement un cours de chant
Alors, je ne me rappelle plus très bien, mais je crois que c'était plus ou moins organisé pour nous, non, ce spectacle de l'école.
C'est un comité d'accueil.
C'était pas exactement un comité d'accueil comme on a pu en avoir en Albanie.
En tout cas, c'était très joli.
Oui, effectivement. Et donc, à Split, est-ce que là aussi, vous logiez chez une des familles, justement, d'élèves? Comment ça s'est passé?
Alors, malheureusement, on n'a pas logé chez une famille d'élèves, mais la prof avec qui on collaborait donc à Split nous a trouvé quand même un hébergement chez des Croates, la famille Majic. Ça a été un peu un choc de les rencontrer, parce qu'on a rencontré une catégorie de la population albanaise, croate, j'y arriverai pas, décidément, qu'on n'avait pas encore véritablement rencontré.
Et bah, du coup, c'était vraiment super intéressant, parce que comme je le disais tout à l'heure, voilà, on a vraiment rencontré des gens totalement, totalement différents les uns des autres. Et en arrivant chez les Majic, qui étaient vraiment, vraiment très gentils.
Précisons-le, ça a l'air important.
On arrivait dans une famille où on ne partageait pas forcément beaucoup de choses avec eux, notamment les valeurs. Déjà, c'était une famille qui était très, 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 très religieuse. Donc, en arrivant dans la maison...
Alors, quelle religion?
Catholique.
Les catholiques, oui.
Puisque à 80...
À 96%, ils sont voilà. Tous catholiques.
D'accord.
En Croatie. Et du coup, bon, on arrive, il y avait des croix au mur, des portraits de Jean-Paul II. Voilà, ils avaient une très forte appartenance religieuse. Et puis aussi, ils avaient un point de vue totalement différent de la Croatie, des personnes qu'on avait rencontrées avant, puisqu'on était plutôt du côté des yougo-nostalgiques jusqu'à maintenant. Et finalement... quand on va parler de la Croatie avec eux, ils vont nous dire la même chose. C'est assez rigolo parce qu'ils vont nous dire la même chose que tous les autres. Ils vont nous...
À savoir que la situation est assez déplorable, qu'il y a trop de corruption, qu'économiquement ça va pas.
Mais ils l'expliquent pas par...
Eux, ils l'expliquent justement par l'héritage de la Yougoslavie.
D'accord. Donc ils sont plutôt en colère, ou en tout cas contre ce passé qu'ils peuvent pourtant pas effacer, mais donc c'est pas du tout de la nostalgie, mais au contraire un dégoût de ce qu'il y avait avant.
Ouais. En fait, le père de la famille Majic, c'est une des personnes qui va s'engager au moment de la guerre d'indépendance. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est ultra nationaliste. Voilà, y a un drapeau à la maison. Bon, c'est pour eux, c'est la Croatie, rien que la Croatie. On a pu aussi comprendre que il y avait encore beaucoup de colère contre les Serbes, puisque on dit que voilà, les Serbes ont envahi la Croatie au moment où les Croates ont voulu prendre leur indépendance, alors qu'ils en avaient tout à fait le droit. Et du coup, lui, de la Yougoslavie, il se rappelle que son oncle est parti en Italie, puisqu'il était politiquement engagé contre la Yougoslavie, donc qu'il était en danger, qu'il y avait pas de liberté d'expression, et des polices politiques avec les prisonniers qui vont avec. Donc c'est vrai que c'est pour ça aussi, on se dit qu'à un moment, on voit une image de la Yougoslavie qui est très positive, et puis à d'autres moments, on nous explique, non, c'était pas non plus...
Il n'y a pas de vérité absolue.
Voilà.
Ça restait
façon,
quand même une dictature où les libertés individuelles étaient réduites au maximum, où il n'y avait pas de pluripartisme. Donc, mais dans tous les cas, je trouve que Stenko de la famille Ružić, il n'en parlait pas non plus comme d'un idéal. Lui, il disait surtout que l'ultralibéralisme, c'était un pire par rapport à la situation yougoslave.
D'accord. Est-ce que vous avez logé seulement chez eux ?
On a rencontré là-bas Jadranka, qui était la professeure des élèves avec qui on travaillait à l'école de Luchac. Donc au collège Luchac, on a aussi passé... de nombreux après-midi dans les classes, donc voilà, toujours en parlant du projet, en essayant de faire des ateliers avec eux. Et Yadranka, c'était quelqu'un qui était très, très engagé. Donc, il nous a aussi beaucoup, beaucoup parlé de bon, la période yougoslave. Donc, elle était plutôt pro-yougoslave aussi, notamment parce que donc, dans cette fédération de six États, il y avait plus de différenciation. En tout cas, peu, les ethnies s'entendaient très bien entre elles. Et elle, son père était d'origine serbe. Donc, son père était serbe et sa mère croate. Elle était... voilà, c'était quelque chose qui a été assez dur à vivre, notamment pendant la guerre. Et même après, elle nous a dit que c'était toujours dangereux pour elle d'en parler. Ça s'est calmé. Et là, elle nous disait qu'au contraire, il y avait un regain. Donc, on a pu observer un peu partout en Croatie, et qu'on peut observer, je crois, un peu partout en Europe, un regain de nationalisme qui était donc assez problématique pour elle. Donc, on a aussi finalement logé chez Yadranka, puisque, comme la plupart des Croates, elle a une maison au bord de la mer sur une île. Donc, c'était assez sympa.
Ça fait rêver.
Mais c'est aussi un des héritages de la Yougoslavie, puisqu'en fait, à la fin du régime, ils avaient donc des logements attribués qu'on leur a proposé de racheter en général à très bas coût. Donc ils sont tous propriétaires, ce qui est très intéressant. Et donc ils ont tous une maison au bord de la mer, puisque la plupart de la Croatie, c'est de la côte. Donc on est parti passer un week-end sur l'île de Brač, qui est juste en face de Split. Donc c'est la deuxième plus grande île de la mer Adriatique, et je crois la plus grande île de Croatie, qui est vraiment très très jolie. Donc elle habitait dans un tout petit village au bord du port. Là-bas, on a fait la rencontre de son mari, Dragan. Ça nous a encore permis de parler de la Croatie et de quelque chose de beaucoup plus récent, de l'entrée très tardive de la Croatie dans l'Union européenne. Les Croates sont rentrés seulement en juillet 2013, donc il y a 2 ans dans l'Union européenne. Et finalement, ça a été pour beaucoup, beaucoup de personnes en Croatie un grand mal, dans le sens où, à ce moment-là, on leur a demandé, comme pour tous les pays de l'Union européenne, de finir de privatiser les entreprises publiques, puisque on est dans une union libéraliste. Et du coup, en Croatie, il y avait une très, très, très grande industrie, qui est l'industrie navale, qui était la première industrie mondiale navale au moment de la Yougoslavie et qui était encore très, très importante mondialement. Et ce sont que des entreprises publiques. Et comme la Croatie a des gros problèmes économiques, donc ils ont dû vendre les chantiers navaux qui engageaient énormément de personnes.
Ça a créé beaucoup de chômage.
Ça a créé énormément de chômage, puisqu'il y en a un seul qui a été repris. Tous les autres ont été vendus pour des prix symboliques, démantelés à des entreprises en plus pas croates, donc capitaux internationaux qui arrivent en Croatie. Et donc, le mari de Yadranka, qui était ingénieur naval, a été licencié, gracié avec un magnifique golden parachute de 3 mois de salaire et pas de chômage derrière. ça nous a encore permis de comprendre ce qui se passait. Et donc, Dragan était parti revivre sur l'île. Alors, en fait, un grand mal pour un grand bien, parce que lui était beaucoup plus heureux
sur son île.
Parce qu'étant ingénieur naval, il s'était construit un petit bateau, il allait pêcher. Ils ont de la chance parce qu'ils étaient propriétaires terriens, donc ils avaient les oliviers, tout ça. Il fait son potager, il s'en sort bien, donc il est bien heureux. Mais ça a soulevé encore un nouveau problème qui est actuel comment les pays gèrent finalement l'intégration dans l'Union européenne, ce que ça peut leur amener. Bien que ça puisse amener beaucoup de choses positives aussi, il y a ces revers-là, en tout cas pour les pays où il y avait une forte intervention de l'État dans l'économie.
Dragan, lui, était plutôt heureux de retourner sur son île, mais Yadranka, elle était autrement plus soucieuse parce qu'elle voyait petit à petit l'État se désengager complètement de l'éducation, et donc elle craignait véritablement pour son poste. Donc c'est vrai que là aussi, c'est un des gros problèmes que connaît encore
la Croatie aujourd'hui.
Et un problème qu'on a vu un peu partout, dans tous les pays où on a été, c'est vrai que l'éducation et la culture, c'est une des principales données où l'État se désengage quand les choses vont mal.
Bon, c'est pas rassurant pour la suite, mais on va essayer de s'en mettre un peu de baume au cœur. Tu me disais tout à l'heure que tu voulais nous parler donc, de cette musique qu'on a entendue, nous en dire un petit peu plus. Explique-nous un peu.
On a qu'à démarrer par un morceau de musique.
Allez.
Oh, allez.
Mili mi, use ljudi vojka, mala blaha. srcu draga. I mome je srcu omilila, doše dati. Poču junak srid gore zelene, piva da ću jutrom i večerom.
Nous écoutions la Klapa Podvorje que nous avions enregistrée dans une konoba, une cave, une cave viticole en fait, dans un petit village à côté de Split qui s'appelait Castel Sukurac. Alors la Klapa c'est un style de musique qui est finalement assez récent, puisqu'il apparaît en Dalmatie au 19e siècle. Avant de devenir un style musical, le mot Klapa ça désigne un groupe d'amis. Et cette musique, en fait, apparaît après les messes. Donc les hommes se rencontrent entre eux, se retrouvent et se mettent à chanter pour le plaisir, à chanter des choses profanes, parce qu'ils ont suffisamment chanté des choses religieuses par avant. Et donc ils parlent du vin, de l'amour, de la bonne chère, et ils interprètent comme ça des chansons du répertoire traditionnel dalmate, tout en se servant des règles qu'ils ont apprises dans la musique en fait, liturgique, donc les règles du chant choral. Ce qui fait que la klapa, en fait, c'est un style musical, mais c'est surtout une technique de chant qui permet à n'importe qui connaît ses règles de pouvoir prendre n'importe quel chant qui est dans la tonalité majeure ou mineure, donc la musique occidentale, en fait, et de l'harmoniser de cette manière-là.
Alors, tu l'as dit très rapidement, mais j'ai entendu cave viticole. Je précise qu'on est à Vinsœuvre. Ça sent le vin rouge par ici.
Donc effectivement, la Croatie produit un très bon vin que nous avons eu la chance de déguster pendant toute une soirée. Nous étions accueillis par le gérant de cette cave, qui était un des chanteurs de cette klapa. Donc. Notre lien avec cette klapa, c'était Tino, qui était lui agent d'entretien au collège Lučac avec lequel on travaillait. Et donc, qui nous avait invités à venir découvrir sa klapa, qui est une klapa amateur, malgré le niveau presque professionnel qu'ils ont. Et donc, on a retrouvé un soir Tino qui avait troqué son bleu de travail pour un beau costume qui est le costume traditionnel dalmate, beau costume noir. Et on les a rejoints dans cette cave et on s'est mis à déguster des bonnes choses de la mer et à écluser maintes bouteilles. Et tout d'un coup, au détour d'un verre, on entendait trois notes de mélodica qui annonçaient l'accord et puis les chanteurs se mettaient à entonner leur chant.
Et vous avez pu les enregistrer comme ça
Oui,
bah,
en fait, c'était un concert privé spécialement pour nous et c'est vrai que c'était des conditions assez optimales pour nous pour l'enregistrement. Une dernière chanson enregistrée ce soir-là, ce fameux soir, avec la clapa Podvorje.
Калинка моя, саду ягода малинка, малинка моя. Эй, калинка, калинка, калинка моя, саду ягода малинка, малинка моя. Эй, калинка, калинка, калинка моя, саду ягода.
Tout à l'heure, on avait entendu une musique aux influences celtes. Là, on est plutôt du côté de la Russie, on dirait.
Oui, certains auront peut-être reconnu le standard russe Kalinka. Donc, ça illustre bien ce que je disais tout à l'heure, à savoir que la clapa est une technique de chant qui peut récupérer n'importe quel chant du moment que les chanteurs connaissent ces techniques donc d'harmonisation de la musique, en fait. Et c'est aussi intéressant parce que ça montre deux spécificités de la culture dalmate, c'est-à-dire qu'elle est tournée vers le monde culturel plutôt latin. La côte dalmate a longtemps été sous domination romaine et vénitienne après. Et d'un autre côté, ça montre l'importance de la culture slave, effectivement, puisque le croate est une langue slave Et donc c'était les Slaves qui avaient colonisé toute cette partie-là, tout ce qui représente en fait l'ancienne Yougoslavie.
Donc avant de se quitter vraiment, on a une petite question dans le public.
Donc oui, une petite question juste par rapport à l'état actuel de la Croatie. Donc vous avez parlé d'un pays dans lequel il y a encore beaucoup de misère depuis la fin de la Yougoslavie, depuis l'indépendance de la Croatie. C'est aussi un pays qui a connu une explosion touristique ces dernières années. Il y a beaucoup de tourisme et on sait que le tourisme a plusieurs conséquences. Ça peut bénéficier au développement économique d'un pays, mais pas toujours de sa population, par un processus de gentrification, des choses comme ça, avec du coup tout devient plus cher, plus prisé, l'accès à la propriété devient plus difficile et parfois s'adresse plus facilement à de riches étrangers qu'à des Croates. Et du coup, j'aurais aimé savoir comment est vécue cette explosion du tourisme en quelques années par les Croates, par les gens que vous avez rencontrés. Donc à la fois qui en bénéficie, selon les gens que vous avez rencontrés, et vous, comment est-ce que vous avez été perçu parfois en tant que touriste aussi là-bas?
Bah c'est vrai qu'en fait, on n'a pas beaucoup touché à cette question. D'abord parce qu'en Croatie continentale, donc à Zagreb, finalement, le tourisme est beaucoup moins développé que sur la côte. Ensuite, sur la côte, on y était en période basse pour le tourisme. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un développement immobilier complètement fou et la côte est assez dénaturée, ce qui est très dommage vu la beauté de ces paysages-là.
Mais il y avait aussi la question de savoir effectivement, à qui revenaient les profits du tourisme en Croatie. Et a priori, il y a quand même énormément d'investisseurs étrangers. Et donc, l'argent ne va, en tout cas, pas. La majorité de l'argent ne va pas aux Croates. Donc, il y avait aussi cette question-là de. Bah, super, il y a du tourisme. À qui va l'argent? Et puis, on ne peut pas se reconstruire juste sur le tourisme. Et qu'est-ce qu'il y a à côté aussi? Il y avait aussi beaucoup de. On avait vu, par exemple, dans le centre de Split, il y avait beaucoup de problèmes par rapport à ça, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de logements qui étaient faits pour les touristes, qui faisaient que le centre-ville, il y avait une partie du centre-ville qui était mort, sur les abords du centre-ville, et qu'il y avait beaucoup de personnes qui essayaient de vivre de ça, mais qu'il y avait aussi un peu une baisse de tourisme au final. Elle nous avait dit qu'il n'y avait pas de remplissage pour tous ces logements, et que ça amenait aussi, effectivement, la pauvreté de ces gens-là qui allaient s'entasser à 10 dans des logements pour essayer de louer l'été, et que ça amenait pas forcément une dynamique positive. Et même, des Croates nous ont dit que ça amenait les gens à être flemmards. Mais des Croates ont dit ça, des Croates. Alors, je ne veux pas du tout rentrer dans ce jeu-là, parce que je trouve pas ça intéressant, mais voilà, qu'il y a aussi qu'il y en a qui se reposent là-dessus, et ça amène pas une dynamique qui serait plutôt de reconstruire le pays de manière industrielle, des services, des choses comme ça. Voilà, de ce que nous, on en a entendu, en tout cas.
Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans le public?
Moi, j'aurais une question, mais alors, qui n'a rien à voir, qui est plus axée sur la musique. C'est qu'on a entendu, mis à part la cornemuse, des musiques avec beaucoup d'un. Enfin, l'instrument, c'est la voix. Est-ce que vous avez pu constater dans la musique traditionnelle d'autres instruments, ou alors c'était vraiment axé sur la voix, dans la musique traditionnelle croate?
En fait, c'est un peu compliqué quand tu vas dans un pays, tu y restes un petit mois et tu travailles déjà pendant 15 jours, 3 semaines avec des écoles, et ensuite tu as un autre objectif qui est d'aller rencontrer une musique traditionnelle. Si tu essayes de faire ça en France, par exemple, tu débarques en France sans trop connaître les musiques traditionnelles, tu te dis mais je vais commencer par où? Donc c'est vrai qu'on s'est attaché quand on allait dans des pays et qu'on n'avait pas forcément beaucoup de temps à rencontrer une seule musique. Et c'est ce qui s'est vraiment passé en Croatie, donc je pourrais pas te dire globalement quel est l'état de la musique traditionnelle en Croatie. Après, il y a des identités culturelles super fortes et des spécificités qui sont très marquées. Et c'est vrai que la zone dalmate, c'est particulièrement connu pour les polyphonies. Et le chant est vachement important. Et ce chant-là est caractérisé surtout par l'emploi de la tierce entre les deux chanteurs principaux, entre les deux ténors, en fait. Et on a entendu aussi d'autres musiques dans la rue comme ça, qui étaient très méditerranéennes, avec accordéon, mandoline. Et les chanteurs chantaient toujours de cette manière-là. Voilà ce que je pourrais t'en dire.
Merci.
Y a-t-il d'autres questions? Non, plus rien. Alors on va écouter, pour conclure bien comme il faut cette émission, une petite musique que vous avez enregistrée en Albanie, donc pour annoncer la suite de votre voyage, qui sera bien sûr présentée dans une nouvelle édition de Mare Nostrum. Donc là, ce qu'on écoute tout de suite, c'est ça se passe en Albanie.
Oui, c'est de l'isopolyphonie albanaise.
C'est parti.
Imara. Oui, de Plevezan, Imara. De Prevez, c'est à Tremoli. C'est très ancien. Oh, oh.
Merci pour vos questions. Merci à Aymeric à la technique. Merci à Gitanjali. Merci à Lucas.
Et merci à Pauline.
Merci. Merci à Radio Live et Ensemble Ici de nous avoir permis, vous avoir permis de raconter ces belles histoires. Et donc, on se retrouve pour une prochaine édition de Mare Nostrum bientôt sur l'Albanie.
Et un petit merci aussi à l'abeille Vincent Brez qui nous a gentiment prêté le local pour l'émission.
Ensemble, ici, Radio Live, la radio des initiatives.